Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Philippe Baudouin, à la technique Jean Frédérics. Aujourd'hui encore, nous examinons l'économie dans une boule de cristal. Peut-on prévoir l'avenir grâce à des modèles et des statistiques? C'est la question qui nous intéresse cette semaine. Le monde de la finance n'est pas épargné par cette tentation d'entrevoir le futur. Et plus que jamais, les mathématiciens veulent faire mentir Jocaste lorsqu'elle déclare dans la pièce de Sophocle que la destinée mène l'homme et que rien ne lui est prévisible. Alors qu'est-ce que les maths ont apporté à la finance? Peut-on vraiment calculer le hasard et à quel prix? Vous écoutez France Culture, bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de cette idylle entre les maths et la finance, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios une grande mathématicienne, Nicole El-Khaoui, professeure émérite à l'université Paris-Sorbonne. À 14h50, vous retrouverez le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Nicole El-Khaoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des toutes premières mathématiciennes à vous être intéressée aux salles de marché. Racontez-nous d'abord votre parcours. Comment la spécialiste des probabilités que vous êtes a-t-elle rencontré le monde de la finance?
Pour une probabiliste, ça ne pouvait se faire que par hasard, bien sûr.
Bien entendu.
C'est effectivement ce qui s'est passé. Dans la première phase de ma formation et de mon travail, en fait, j'ai fait de la recherche en probabilité sur les processus stochastiques, dont le symbole est un peu le mouvement brownien, popularisé par Einstein. Et cette période-là a été une période extrêmement théorique, puisqu'il y avait beaucoup de problèmes de fondement, d'une certaine manière. Et je me suis intéressée à cette période-là, aux questions d'optimisation, d'une certaine manière. Et tout à fait par hasard, à l'occasion d'un stage dans une banque pour aller voir un peu de plus près ce qui se passait dans le monde professionnel, mais qui n'avait rien à voir avec cette activité, on m'a expliqué que dans les salles de marché, on commençait à utiliser le mouvement brownien pour faire une activité qui était nouvelle en France. Alors nous, la période, c'est 86-87, ça fait très longtemps, mais c'était la création de nouveaux marchés sur le mode anglo-saxon, qui était le MATIF et le MONEP, et qui avait été autorisé par la gauche et la droite mélangées en liaison avec l'Europe.
On va expliquer bien sûr ce qu'est ce mouvement brownien et ce qu'il permet notamment sur le marché des produits dérivés en particulier. Mais d'abord, ce qu'il faut peut-être expliquer, Nicole El-Khaoui, c'est que les actifs financiers ont un comportement aléatoire et c'est là que les mathématiques interviennent pour réduire le hasard.
Alors, l'activité sur laquelle je me suis beaucoup investie, qui avait un rapport en fait avec ma recherche théorique, c'était peut-être pas réduire le hasard, mais c'était contribuer à plutôt assurer les acteurs du marché contre le hasard, alors on va dire plutôt la fluctuation des paramètres de l'économie. Peut-être c'est très important de rappeler que en 1971, le 15 août, je ris toujours avec le 15 août parce que de grandes décisions ont été prises le 15 août parce que c'est le moment où les marchés sont fermés et où les gens sont plutôt en vacances, même aux États-Unis. Il y a Nixon annonce l'arrêt de la convertibilité du dollar en or, sans à la surprise de tout le monde. C'était quelque chose dont on imaginait que ça pouvait se passer, mais pas à cette date-là et pas à ce moment-là. Le contexte, c'est la guerre du Vietnam, où les États-Unis sont extrêmement engagés. Et qu'est-ce que veut dire déréguler ou ne plus garantir? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'émettre de la monnaie sans contrepartie. Et donc, comme on dit vulgairement, la planche à billets a commencé à se développer énormément.
Et ça, ça va transformer complètement,
l'économie. Même carrément l'économie. On rentre dans l'ère très libérale de l'économie. Et la planche à billets, ben, dans le contexte actuel, on a vu qu'elle allait être extrêmement sollicitée pour financer toutes les conséquences de la crise du Covid. Donc le fait qu'on ne met pas de contrepartie en face crée une économie d'un style nouveau sur lesquels les États-Unis ont beaucoup basé leur développement.
Et c'est à ce moment-là que, à partir des années 70, Nicole El-Khaoui, et c'est important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que les marchés financiers s'ouvrent à l'international et se complexifient.
Bon, la tendance générale de l'ouverture à l'international est déjà
bien enclenchée.
Non, ce qui est nouveau, c'est aux États-Unis, on crée en 1973 à Chicago, qui était une place financière très centrée sur les marchés agricoles et les choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup de. On vendait ces récoltes à terme, c'est-à-dire ce qu'on continue à faire maintenant. Mais il y a une grande habitude de choses très concrètes, en fait. Parce que la libéralisation du dollar, ça va libéraliser beaucoup de paramètres de l'économie. Et pour les agents économiques standards, ça devient extrêmement compliqué de gérer ces risques. Et donc, ils décident de créer un marché, alors les marchés à terme ou les marchés dérivés, d'assurance, en fait, contre les fluctuations des paramètres fondamentaux de l'économie.
Et ce sont ces produits dérivés, effectivement, qui permettent de se protéger du risque. On va y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion de hasard qui est centrale pour nous. J'aimerais vous faire entendre un extrait de Ma nuit chez Maud d'Éric Romer. Jean-Louis, jeune ingénieur arrivé depuis peu à Clermont-Ferrand, tombe sur un ami d'adolescence, Vidal, devenu professeur de philosophie. Écoutons leur discussion dans le café où ils se sont rencontrés.
Tu viens souvent ici ?
Moi, si dire jamais, toi.
C'est la première fois que j'y mets les pieds. Et c'est ici, précisément, que nous nous sommes rencontrés.
C'est étrange.
Non, au contraire, c'est tout à fait normal. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situent nos points d'intersection. Forcément. Actuellement, j'ai fait des mathématiques à temps perdu. Ça m'amuserait de définir les chances que nous avions de nous rencontrer, disons, en moins de 2 mois.
Tu crois que c'est possible ?
C'est une question d'information et de traitement de l'information. Encore faut-il que l'information existe. La probabilité que j'ai de rencontrer une personne dont je ne connais ni le domicile, ni le lieu de travail, est évidemment impossible à déterminer.
Nicole El-Khaoui, quelle chance ces deux amis avaient-ils de se rencontrer ? Voilà typiquement une question à laquelle peuvent répondre les mathématiques.
Il a bien posé le problème. Si on ne connaît rien sur les deux personnes, si on a...
À condition d'avoir effectivement les informations.
Oui, mais ça c'est majeur. Et après, pourquoi est-ce que on réunirait des informations pour voir la chance que ces deux personnes se retrouvent ? C'est pas vital, quoi, quelque part. Donc la question de l'objectif pour lequel on cherche à réunir ces informations est extrêmement importante et se pose avec beaucoup d'actualité actuellement dans le recueil des données pour ce qu'on appelle le big data et des choses de ce genre. Dans le cas des marchés qui nous intéressaient, il y avait une caractéristique spécifique, c'était de l'assurance contre le risque de marché, c'est-à-dire que c'était les standards de l'économie qui bougeaient, par exemple les taux de change, les actions, les choses comme ça, et les fluctuations de ces fondamentaux, on dit sous-jacents, des produits dérivés, étaient en fait gérés pas par la même structure que la structure qui gérait l'assurance de ces paramètres. Et donc le taux de change, il y avait un marché du change, il y a un marché de la bourse, les marchés des actions, et face aux variations de ces titres et puis des taux d'intérêt d'énormément de choses dans l'économie qui avaient produit aux États-Unis en particulier des faillites spectaculaires de caisses d'épargne par exemple, faut pas croire que la transformation n'a impacté que les autres, eux-mêmes en ont beaucoup souffert. Ça a obligé de à penser les choses de manière très différente. Juste un mot, c'est que quand c'est les banques qui assuraient, c'est les marchés qui assuraient les agents économiques, donc c'est eux qui prenaient le risque à la place des agents. Et ça, c'est extrêmement important parce que la position dans laquelle en particulier on est intervenu n'était pas la position habituelle. D'habitude, on pense qu'on fait des investissements, qu'il faut optimiser l'investissement. Là, on doit gérer le risque que la banque supporte à la place du client. Et c'est un point de vue très différent. Donc la prévision ne se perçoit pas dans le vocabulaire habituel, on va dire, et alors, avec les mêmes objectifs.
Justement, qu'a permis l'introduction des mathématiques dans la finance? Selon vous, ça a permis avant tout de créer un langage commun?
Alors, à la fin, j'ai travaillé presque 30 ans, c'était très intéressant d'ailleurs d'être un spectateur éclairé, on va dire, parce que j'ai beaucoup investi quand même pour comprendre les marchés et puis suivre mes étudiants. L'élément fondamental, ça va être à la fois la modélisation, mais aussi de nouveaux outils ou de nouvelles manières de voir. Et l'enjeu va être moins, et c'est d'ailleurs une des choses que va évoquer Bachelier en 1900, va être moins de trouver la moyenne des cours, enfin la loi des cours, etc., mais trouver un moyen de réduire les risques dans un marché qui fluctue beaucoup et qui évolue au cours du temps. Donc le temps est le paramètre majeur de tout ce qui se passe dans ces marchés. Un temps très rapide où on peut échanger très très vite et un temps moyen ou long sur lequel joue le contrat d'assurance.
Vous avez évoqué Louis Bachelier, justement, qui sont les pères fondateurs des mathématiques appliquées à la finance. Bachelier, c'est l'un des premiers à la fin du 19e siècle à avoir tenté justement de mathématiser le hasard.
Non, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que personne ne cherche à mathématiser le hasard. D'abord même comme probabiliste, est-ce qu'on cherche à mathématiser le hasard? On dit plutôt le hasard, ça se mesure. Alors on oublie un peu le hasard et on regarde beaucoup la mesure. Et on se demande si ça répond à peu près aux questions qu'on se pose. Mais la chose très originale de Bachelier en 1900, dans sa thèse qui défend devant Henri Poincaré, qui... plutôt mitigé parce que la finance, comme maintenant, n'avait pas bonne presse. En fait, ce qui est étonnant, c'est que son point de vue, c'est de définir une axiomatique du marché. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des transactions dans un marché où personne ne sait exactement ce qui va se passer dans le futur? Et comment un acheteur et un vendeur peuvent se mettre d'accord? Et il énonce quelques principes qui incluent l'idée que les prix évoluent au cours du temps. Donc la consistance des prix dans le temps, d'une certaine manière. Et à partir de ces principes, il arrive à déduire que les prix doivent satisfaire une équation qu'on appelle l'équation de la chaleur et en déduire a posteriori que tout doit se passer comme si il fluctuait comme un mouvement brownien. Donc c'est l'axiomatique.
Si on comprend bien, Nicole El-Karoui, les travaux de Bachelier vont finalement rejoindre des travaux préalables qui sont ceux du botaniste Robert Brown, qui donne son nom à ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et Robert Brown, en 1827, il observe le mouvement de particules à l'intérieur de grains de pollen. Et alors, comment est-ce que cette observation va être ensuite utilisée par Bachelier?
Alors, d'une certaine manière, Bachelier n'utilise pas du tout, d'abord, je pense qu'il ne connaît pas Brown, et il ne cherche pas à modéliser les cours. Il cherche à comprendre comment des agents économiques peuvent se mettre d'accord sur un prix dont on sait qu'il va fluctuer dans le futur. En particulier, il y avait la question du règlement mensuel. On payait souvent ses actions à la fin du mois et l'écart entre le prix coté et le prix de la fin était un enjeu de la bourse. Donc Bachelier essaie d'énoncer des principes et au vu des principes, il déduit des propriétés nécessaires, en quelque sorte, des contraintes sur les prix. Et il se trouve que ces prix, la contrainte qui est issue de ça, est très proche de ce que Einstein va développer après, qui est ce qu'on appelle l'équation de la chaleur, qui avait été motivée par d'autres choses. Brown ne fait pas vraiment de mathématiques autour de son observation. Ce qu'il observe, c'est que les particules sur l'eau, elles bougent de manière erratique et qu'on ne peut pas suivre le mouvement d'une particule de manière sûre. Et c'est une des propriétés des cours qu'on observe, mais ce n'était pas le point de départ de Bachelier.
Et l'hypothèse qui en découle du côté des mathématiques, c'est qu'il y a une certaine continuité des cotations en bourse?
Ben là, oui, enfin d'abord, il y a deux, à ce niveau-là, il y a deux choses. À l'époque, les cotations, elles n'étaient pas si resserrées que maintenant. L'échelle de temps était beaucoup plus grande parce qu'on n'avait pas les moyens de gérer ces choses-là. L'hypothèse de Bachelier, c'est quand même qu'il va faire ce raisonnement-là en passant à la limite, si vous voulez. C'est souvent ce que font les mathématiciens parce qu'on voit mieux les choses à la limite que dans le détail, en quelque sorte. Et c'est ça qui va définir les grandes lignes de force de la vision de Bachelier sur... Les cours ont ces propriétés-là à cause de ça, d'une propriété de consistance et d'un accord nécessaire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de biais dans les marchés, sinon les gens ne peuvent pas se mettre d'accord et anticiper l'évolution.
Et c'est cette hypothèse de Bachelier et ce mouvement brownien qui est ensuite appliqué aux produits dérivés lorsqu'ils apparaissent à partir des années 60-70, Nicolas Carpentier.
Oui, alors il faut voir que... Il y a beaucoup d'analogies avec au moins ce qui se passait dans les années 80 parce que son directeur de thèse à la Sorbonne, Raymond Poincaré, qui est plutôt motivé par les rapports entre les mathématiques et la physique, comme tout le monde à cette époque, même le hasard un petit peu, il trouve que Bachelier c'est bien, c'est très original, mais enfin il aurait mieux fait de faire la physique s'il était aussi bon. Et donc en fait Bachelier a eu des ennuis toute sa vie, je crois qu'il avait très mauvais caractère. Mais après c'est complètement oublié. Donc l'œuvre de Bachelier est complètement oubliée et on voit apparaître dans ces histoires de phénomènes très fluctuants et très compliqués, il y a les remarques d'Einstein. Einstein commence une modélisation, il y a Wiener et les grands noms, ça va être les grands noms des probabilités. Et d'une certaine manière, eux, ils regardent vraiment les mouvements, tandis que Bachelier, il regardait plutôt finalement un marché où les choses ont l'air de bouger comme ça, comment ça peut exister.
Et donc les travaux de Bachelier reviennent grâce, en quelque sorte, avec l'ouverture des marchés.
Alors avec justement l'ouverture des marchés qu'on peut appeler les marchés du risque financier. Donc là, la question de comment on fait des prix se pose énormément puisqu'on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir sur la réalité des cours. On sait que on est dans un monde économique et en fait dans le monde économique, le passé n'est pas souvent une information suffisante pour prévoir le futur parce que le monde économique apprend très vite. Et donc, en fait, il anticipe, il analyse, il digère les phénomènes qu'on voit apparaître. Et donc, le futur est assez différent du passé. Et les prévisions marchent pas très bien. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même?
Et les produits dérivés, c'est plus de risques et donc plus de stress pour les traders.
C'est un stress assez particulier. C'est le stress qu'on appelle celui du trader, c'est-à-dire... Le stress de la prise de position sur les marchés, donc le risque de voir le marché évoluer dans un sens totalement opposé à celui qu'on anticipait auparavant, et donc de perdre beaucoup d'argent. C'est pas un stress qui proviendrait d'un risque commercial, puisque nous n'avons pas de clients en direct, et donc nous n'avons pas peur de perdre des clients, mais c'est surtout un stress de perdre de l'argent et très rapidement.
C'est un métier où on attrape quelques cheveux blancs. C'est vrai que,
je dirais pas que
ça fait partie du risque.
Je dirais pas qu'on transpire.
Paye,
si on fait une erreur, ça peut coûter très très cher, aussi bien à l'entreprise qu'à nous. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Donc déjà, on peut pas dire qu'on ait une sécurité d'emploi à ce niveau-là. Et puis, on arrive à un stade de spécialisation où on a quand même des millions qui nous passent entre les mains.
Ce qu'on entend avec ces témoignages, Nicolas El-Khaoui, c'est que dans les années 80, déjà, une lourde responsabilité pesait sur les traders. Les enjeux sont devenus plus élevés avec l'arrivée des produits dérivés.
C'était un nouveau métier, les produits dérivés. Donc c'est le métier, celui de le trader, il vend un contrat d'assurance et ça, il est en charge de réduire le risque que la banque supporte dans la gestion de ce contrat, puisqu'elle assure le client contre la hausse du dollar, par exemple. Donc il a une double chose, il doit vendre et expliquer que ça a de l'intérêt, et puis c'est pas trop cher, et par ailleurs, il doit mettre en place ce qu'on appelle la stratégie de couverture, donc... Et ça, c'est cette stratégie de couverture qui, d'abord, est une innovation, on va dire, technologique et intellectuelle, d'une certaine manière. Et par ailleurs, celle qui demande d'être extrêmement vigilant au jour le jour dans la poursuite du marché, d'une certaine manière.
Il faut être extrêmement vigilant parce que les montants investis sur les marchés sont de plus en plus importants et parce qu'aussi les acteurs se multiplient.
Alors il y a plusieurs activités. Une partie de ce qu'ils évoquent ressemble plus au trading haute fréquence, où là on prend vraiment des positions sur les titres de marché, mais très rapidement et sur des grands montants. Mais absolument partout, de toute façon, oui, il y a de plus en plus d'acteurs. La vitesse de transaction augmente. Donc à la fois c'est bien dans la gestion des risques parce que vous avez de plus en plus d'informations, mais en même temps ça rend les choses beaucoup plus complexes. Mais on fait pas ça à la main. Et donc l'une des choses qui est vraiment très importante pour voir l'analogie avec ce qui se passe en même temps, c'est de se rappeler que, on a vite oublié, mais qu'en 1987 ou 6, l'informatique change complètement. On passe des gros IBM, et quand j'étais en stage, on devait aller faire du charme au responsable informatique pour qu'il veuille bien vous donner une heure de temps de calcul, au PC. Et ça, c'était tout nouveau, mais les PC, ils bougeaient pas, hein. Enfin, je veux dire, ils traitaient très peu de données. Et je me souviens que pour faire des calculs, j'avais des stages, des élèves de l'X qui passaient des heures à calculer, je sais pas, le logarithme de quelque chose, alors que maintenant, n'importe quel gamin de 10 ans le fait sur sa calculette.
Donc, en 40 ans, il y a eu une vraie révolution.
Oui. Alors, en ce moment, on voit la même chose avec une échelle de temps de plus en plus courte et des volumes de plus en plus grands. Mais d'une certaine manière, les pas intellectuels, les pas conceptuels ont une certaine analogie. Et à cette époque-là, la France ouvre des marchés avec 10 ans de retard par rapport aux États-Unis et sont des ingénieurs qui vont créer l'activité de gestion des produits dérivés et qui misent à fond sur l'informatique. Donc c'est comme si vous démarrez une nouvelle activité par rapport aux autres à une période où il y a une révolution technologique. Et là, en France, on a su profiter de cette révolution.
On va revenir sur le rôle des ingénieurs, et notamment parce qu'effectivement, vous avez largement contribué à former toute une génération d'analystes quantitatifs, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais d'abord, sur quel modèle est-ce qu'ils s'appuient? Pour bien le comprendre, je voudrais que l'on écoute l'économiste et prix Nobel Myron Scholl lors d'une conférence à la Smith Business School, c'était en 2010.
In talking about management under uncertainty or risk management or...
Lorsqu'on parle de gestion d'actifs, je pense que tout le monde devrait essayer de changer de point de vue. Pour se concentrer en premier lieu sur l'incertain et penser aux gains dans un second temps. Car si nous nous concentrons d'abord sur l'incertitude, je pense que cela nous permettra de développer beaucoup de nouvelles idées et des façons intéressantes d'appréhender les problèmes. Et je pense qu'au cours des années où j'ai été impliqué dans des banques, des fonds et autres institutions financières, la gestion du risque était un domaine vraiment sous-développé. Alors même que la gestion du risque et de l'incertain et la question des gains devraient être les deux faces d'une même pièce. Mais ce n'est pas le cas.
Nicole El-Khaoui, que vous inspirent ces propos de Myron Scholl, qui, on va le voir, va être à l'origine d'un nouvel outil extrêmement important justement pour réduire les risques sur les marchés financiers?
Je ne peux qu'être d'accord avec lui. La question qui se passe, c'est que dans l'organisation des marchés et dans la gestion des risques, il y a quand même le rôle des structures, par exemple des normes comptables, de la régulation, de l'organisation du marché. Les marchés américains et marchés français ne sont pas organisés de la même façon. On n'est plus contrôlé d'une certaine manière en France. Les capacités qu'on avait de prêter ou d'emprunter, par exemple, sur les crédits immobiliers n'étaient pas les mêmes en France et aux États-Unis, dont la libéralisation, d'une certaine manière, de ces crédits a créé la crise des subprimes. Donc, c'est une des choses que, comme mathématicienne, je n'étais très peu sensible, puisque la plupart du temps, je ne connaissais pas, mais que la structure, un marché, c'est vraiment un ensemble global d'acteurs, de risques, maintenant de plus en plus internationale, qui joue quand même beaucoup ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire que quand il y a des disparités entre différents pays ou entre différentes activités, ils essayent d'en profiter pour faire de l'argent. Mais on ne peut pas leur reprocher de chercher à faire de l'argent, puisque de toute façon, toute l'économie est basée sur le fait de faire, on va dire, du fric à tout prix, le prix pouvant être élevé pour les autres, et si possible, pas pour soi.
Et que va permettre, que vont permettre les travaux de Myron Scholes avec deux collègues qui sont Black et Merton? Ces trois, alors ils sont certains sont mathématiciens, d'autres économistes. Ils vont mettre en place et créer une formule qui va rendre possible quasiment une couverture parfaite du risque. Nicole El-Khaoui.
Bon,
c'est un peu hâtif peut-être.
Oui, voilà. Mais non, mais d'abord c'est très important, c'est parce que ils proposent une solution pour les banques qui prennent le risque à la place de leurs clients. Bon, donc vous assurez contre la montée du dollar, dans 6 mois le dollar il peut avoir monté ou baissé beaucoup, et vous garantissez que dans 6 mois vous pouvez acheter des dollars à un prix garanti. Bon, si le dollar a monté au-dessus de ça, c'est vous qui payez. Et donc, quel est le prix qu'on doit faire payer pour la garantie? C'est une assurance. Et par ailleurs, si vous attendez, mis votre argent à la banque et vous attendez que ça se passe, indépendamment de tous les mouvements du dollar, vous voyez bien que ça ne va pas être une bonne idée. Donc en fait, le rôle des ingénieurs quantitatifs de la formule de Black-Scholes, c'est de définir une stratégie, une manière de suivre le marché, pour réduire, avec l'argent qu'on a reçu en prime pour le contrat, de réduire l'exposition, le montant qu'on aura à payer à la fin.
Réduire les pertes potentielles.
Voilà, mais pour bien comprendre, c'est le problème est très similaire à envoyer une fusée sur la Lune. Alors, c'est quand même, ça c'est l'avantage des maths. Bon, vous avez une cible, la fusée doit arriver sur la Lune. Entre maintenant et la Lune, il y a un certain nombre de lois physiques qui vont contraindre la fusée à suivre une trajectoire, mais il y a beaucoup d'impondérables. Bon. Et donc, il faut savoir corriger les impondérables au fur et à mesure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui joue le rôle de la trajectoire de la fusée? C'est ce qu'on appelle le portefeuille de couverture. C'est-à-dire, vous assurez contre le dollar, vous allez acheter au jour le jour ou vendre, ça n'a pas d'importance. Vous allez poursuivre le marché de manière avec ce que votre investissement rapporte à peu près ce que vous devriez payer à la fin. Et la formule de Black-Scholes, c'est de dire combien on doit acheter de dollars au jour le jour pour garantir le produit qu'on a derrière.
Et c'est
donc
là
c'est
que
la cible. Voilà. Et d'une certaine manière, la manière de penser, c'est le portefeuille. Donc c'est très au jour le jour, très concret d'une certaine manière. Mais savoir combien il faut acheter, il n'y a pas trop de lois de gaussienne ou de choses comme ça, mais quand même pour trouver les quantités de ce qu'on doit acheter, il faut un jour mettre des paramètres quand même. Et ce jour-là, les paramètres clés, Black-Scholes et Merton, ont contribué à montrer que la structure est basée sur l'amplitude du bruit, et le bruit mesuré par un paramètre très connu dans les marchés, la volatilité.
Et c'est là que le facteur temps est particulièrement important. Il est au cœur des théories de Black-Scholes et Merton. On peut dire que les marchés créent leur propre temps, ils se désynchronisent du temps physique.
Ils n'en ont rien à foutre. Hein.
Comme ça, c'est clair.
C'est grossier. Hein. Bon, excusez-moi. Non, mais d'une certaine manière, ils ont le temps du marché. Le temps de la machine, le temps de la nuit. La question de l'ouverture des marchés, enfin il y a un temps très concret du marché. Donc avant on traitait à la journée ou à la demi-journée ou 2 ou 3 fois par jour. Après moi les périodes que j'ai connues au début on traitait 4-5 fois par jour si le marché décalait. Traiter ça veut dire changer la composition de son portefeuille de couverture. Et maintenant on traite à la milliseconde ou à la seconde. Mais il arrive un moment dans le monde des dérivés, c'est pas la peine de traiter trop souvent parce que de rebalancer son portefeuille, ça coûte d'une certaine manière, même si les frais sont faibles. Et c'est toujours pareil, il faut agir en fonction de l'objectif et avoir une sorte de compromis entre l'analyse et puis la réalisation.
Alors, qui sont ces ingénieurs que les salles de marché s'arrachent et quelles sont les limites des modèles mathématiques sur lesquels ils s'appuient? On en parle dans un instant. Sans calculer,
juste s'évader, s'oublier. Je me plie en trois sur moi, je me casse en douze pour toi. Je me multiplie parfois.
L'amour mathématique de M sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de la boss des maths, Nicole El-Karoui, et nous parlons des liaisons parfois dangereuses entre les mathématiques et la finance, avant d'en venir justement aux limites de ces modèles qui cherchent, on l'a dit, à réduire au maximum les risques sur les marchés. Je voudrais qu'on parle des acteurs de la finance, ceux qu'on appelle les analystes quantitatifs, quant pour les intimes. En quoi consiste leur travail, Nicole El-Karoui, vous qui avez formé nombre de ces ingénieurs?
Alors, leur travail est de proposer et de tester, on peut dire, entre guillemets, les modèles, parce que ce n'est pas toujours cette dimension de modélisation très stricte qui évolue au cours du temps. C'est plutôt comment l'adapter, comment l'implémenter correctement, etc. Et il y a une chose qui est très importante qui s'est passée au début des années 90 avec cette révolution informatique, c'est que dans ce monde qui fluctue beaucoup, etc., prendre des décisions, ça n'est pas évident. Et en fait, c'est intéressant d'essayer de voir si on peut mimiquer, en un certain sens, dupliquer le marché, expérimenter le marché. Le marché futur, ce ne sera pas exact, mais on peut retraduire ces fluctuations, voir comment ça marche, si le modèle a l'air de ressembler, etc. On ne dit pas qu'on a la vérité. On dit qu'on essaye de voir si ça ne ressemble pas du tout, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, en même temps, arriver à dupliquer les fluctuations sur les marchés, ça ressemble, le modèle le plus simple pour l'imaginer, c'est vraiment la promenade de l'ivrogne, hein, qui se déplace en sachant pas où il va, à droite, à gauche, etc. Et ça peut être exactement le résultat des fluctuations d'un cours de marché. Et donc, comment vous allez faire? D'abord, est-ce que vous êtes capable de reproduire la promenade de l'ivrogne?
Pas
et si vous êtes capable de le faire, eh ben, qu'est-ce que ça vous apporte comme information et de quelle manière vous pouvez faire confiance? Alors, la promenade de l'ivrogne, ça ressemble beaucoup à un jeu de pile ou face qui a beaucoup motivé, en fait, les probabilités au point de départ. Et pour arriver à la représenter, il faut être capable de faire ce qu'on appelle des simulations de Monte Carlo. Donc là, il faut simuler le hasard. Et donc, simuler le hasard, c'est en fait très compliqué si on veut le faire avec beaucoup de robustesse, d'une certaine manière, et dans des grandes dimensions. Et quelque part, la base, c'est tirer un nombre au hasard dans un intervalle 0-1. Bon, mais vous voulez faire ça un milliard de fois, donc il faut que les nombres soient indépendants, enfin, qu'il n'y ait pas trop de liaison entre eux, etc. Et très bizarrement, la bonne manière de faire ça, c'est en fait d'utiliser des méthodes qu'on appelle déterministes. C'est certains résultats de la théorie des nombres qui vont donner la meilleure manière de simuler des nombres au hasard. Et donc, on est en train de passer d'un hasard qu'on rend ce qu'on appelle déterministe, puisque là, il n'y a pas d'incertain, mais il y a tellement de précision, de possibilités, etc., que ça s'approche. Et ça va être utilisé de manière massive, et de plus en plus massive, et en ce moment, tout le temps, grâce au progrès de l'informatique. Donc, en 85, on ne pouvait pas, enfin très peu, et maintenant, on peut beaucoup.
Dans le film Margin Call, sorti en 2012, un jeune analyste, Peter Sullivan, travaille dans la gestion des risques d'une banque d'investissement. Écoutez ce qu'il dit de son parcours lors d'une réunion avec ses supérieurs.
Bien, passons directement aux présentations. Sarah Robertson, que vous connaissez, responsable du service contrôle des risques. Ramesh Shah, de l'étage au-dessus, et David Horn, un des avocats de la société.
Heureux de vous rencontrer. Mon directeur du trading, Will Emerson, et eux, c'est...
Peter Sullivan et Seth Bregman, ils sont au contrôle des risques.
Où est Eric Dale?
On l'a licencié aujourd'hui.
Il reste qui au contrôle des risques maintenant?
Depuis aujourd'hui, il reste Peter et notre analyste junior Seth.
Vraiment?
Apparemment, Eric travaillait là-dessus depuis un moment, mais sans arriver à le finir. Ce matin, en quittant nos bureaux, il a donné le programme à Peter en lui demandant d'y jeter un coup d'œil. Peter l'a fait, en y ajoutant quelques éléments qu'Eric avait omis. Et voilà ce que ça donne.
Peter, c'est votre travail?
Plutôt celui de Monsieur Dale.
Mais c'est votre analyse.
Je n'ai fait que développer le concept d'origine de Monsieur Dale, mais oui.
Quel est votre parcours, votre CV?
Je travaille pour vous depuis 18 mois, toujours avec Eric Dale, mais j'ai un doctorat d'ingénieur expert en propulsion du MIT. Ma thèse portait sur l'incidence des forces de friction sur le pilotage aéronautique en pesanteur réduite.
Donc vous êtes un spécialiste des fusées?
J'étais, oui.
Intéressant. Comment êtes-vous arrivé ici?
Eh bien, ce sont également des calculs, ce qui diffère, c'est leur nature. Et puis, pour parler franchement, la paye est infiniment plus motivante.
Nicole El-Khaoui, votre métaphore de la fusée était particulièrement à propos.
Je m'attendais pas.
En l'occurrence, les meilleurs stratèges, selon vous, ce sont les ingénieurs devenus économistes. Là, il nous explique qu'il a été avant ingénieur expert en propulsion.
Ils ne deviennent pas économistes. Ils deviennent en charge de résoudre un problème qui est un problème de cible stochastique. Vous ne savez pas quel est le futur, vous avez garanti et vous devez réduire les risques. Moi, quand j'ai commencé à faire de la finance, je savais très peu de finance. Alors j'ai décidé de ne pas être la mathématicienne qui écrit l'équation et qui attend que ça se passe. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de travailler avec des gens et comprendre, puis ça m'intéressait énormément. Puis chaque fois, vous rencontrez des experts de quelque chose, qui n'ont pas votre culture, mais la rencontre est toujours extrêmement fructueuse. Mais le problème était assez limité d'une certaine manière, puisque les cours, les choses qui fluctuaient, étaient faites à l'extérieur de la salle de marché. Les taux de change bougeaient pour des raisons économiques. Mais là, ils bougeaient, on les observait et on essayait de réduire les risques. Donc c'est un tout petit monde dans ce qui fait.
C'est une phase expérimentale de la profession qui intervient dans les années 90.
Non, c'est la formule de Black-Scholes, hein. C'est la même chose. Hein,
mais ça pour dire que cette profession a pris une ampleur effectivement extrêmement importante à partir des années 2000, vous l'avez dit, avec la croissance rapide de la puissance des ordinateurs notamment.
Oui, alors si on peut résumer en quelques mots, dans mon expérience, les marchés se créent en 86-87 en France, les marchés dérivés. On peut dire que de 90 à 2000, c'est un peu la période des start-up, parce qu'on n'est jamais sûr de soi, même dans les marchés, on développe, il y a beaucoup de nouvelles questions, on est très vigilant, on est très questionné. Après, il y a aussi une pression de l'industrie, parce que en fait, c'est des endroits où on commence à gagner de l'argent, et la pression augmente pour que on fasse de plus en plus de volume, de plus en plus d'activités, et que les gains augmentent. En même temps, parallèlement, dans 98, donc 7-8 ans après, le régulateur commence à mettre en place des systèmes de contrôle, de surveillance, de risque de marché, c'est ce qu'on appelle la value at risk, essayer d'estimer quel était le seuil maximal à 99% qu'on pouvait perdre contre un grand mouvement de marché. Donc ça, la chose importante de ceci, c'est que chaque trader gère ses contrats individuellement, puisqu'il doit assurer d'une certaine manière. Et donc la vision de value at risk obligeait à avoir une vision plus globale des risques agrégés de l'activité de cette banque, de ce secteur particulier.
Mais toutefois, vous estimez qu'il faudrait davantage développer une culture de la vigilance, peut-être pour rendre le métier d'analyste plus efficace?
Oui, alors, non, mais ça, c'est de manière générale, parce que après, on nous a accusés d'être responsables de la crise de 2008, etc. Les mathématiques, ça met de l'ordre. Donc déjà, ça oblige les gens à appeler un chat un chat. Donc quand on parle de volatilité, on doit préciser de quelle volatilité il s'agit. Comme ça, au moins, on peut avancer dans les échanges. Après, bon, ben nous, on a la technique. Voilà, on a une technique, mais les autres en ont une autre. Ça n'est jamais la vérité absolue. Par contre, il est très rare que quand la théorie dit que quelque chose ne doit pas marcher, c'est quand même très rare que ça marche en vrai. Et en particulier, bien sûr, tous les modèles sont des approximations. Au début, on met de côté les choses qui n'ont pas l'air les plus déterminantes, mais au fur et à mesure que vous comprenez mieux les risques, ben des choses qui étaient mineures paraissent plus importantes, etc. Et donc, pour moi, dans la culture de l'incertain, il faut absolument avoir l'habitude de considérer que on est toujours approximatif ou un peu à côté de la plaque, nécessairement, c'est dans la structure même. Tout le monde apprend. L'avantage comparatif d'un nouveau produit dans la banque vers les années 2000, ce que me disaient les gens qui y faisaient, c'était 5 mois. Après, toutes les autres banques faisaient la même chose, etc. Donc, il y avait une sorte d'inflation à la course, à l'innovation. Mais il n'y avait pas la culture des warnings, de mettre dans les systèmes des signaux qui disent « attention, on est hors des limites sur lesquelles on peut être confiant ».
Alors, est-ce que c'est ça qui a manqué au moment de la crise de 2008? Dans quelle mesure, plus largement, selon vous, Nicolas Elgaroui, les outils mathématiques portent une responsabilité dans cette crise financière?
Les outils... Bon, enfin, sauf qu'on a fait donner beaucoup d'importance aux maths. C'est pas tellement ça. D'abord, il y a eu des structures, des changements majeurs dans l'organisation des marchés et dans les nouveaux produits. Donc, les Américains créent les subprimes, c'est-à-dire des prêts à des gens non solvables, dont la responsabilité individuelle n'est pas portée par la banque qui les émet, puisqu'ils sont transportés sur les marchés, coupés en petits bouts, si vous voulez.
C'est la
titrisation. Et chacun supporte un tout petit bout du risque. Donc, logiquement, ça diminue les risques globaux et ça permet de faire un certain nombre de choses. Mais si vous faites ça dans des proportions trop grandes, en plus, c'était assuré, mais... un jour, ça va péter, quoi.
Donc, c'est une dérive du modèle mathématique, en réalité?
Non, c'est une dérive de la finance, de croire qu'on peut tout faire.
Selon certains économistes, les modèles mathématiques auraient donné une image trompeuse du hasard, ce qui a conduit les agences de notation à sous-évaluer les risques. À la veille de la crise, des actifs pourris étaient encore notés triple A. C'est ce qu'on peut entendre dans cet extrait du documentaire Inside Jobs, sorti en 2010.
Les fonds de pension auraient dû dire « ce sont des subprimes, pourquoi les acheter ?» Et les types de chez Moody's et S&P disaient que c'était des triple A. Ces titres n'étaient jamais émis sans l'imprimatur, le label de qualité des agences de notation. Les produits notés triple A sont passés brutalement d'un tout petit nombre à des milliers et des milliers. J'ai témoigné devant les deux chambres du Congrès au sujet des agences de notation. Les deux fois, elles ont sorti de leur chapeau d'éminents avocats spécialistes du Premier Amendement pour arguer que, quand on donne à un produit la note triple A, ce n'est que notre opinion. Il ne faut pas s'y fier.
S&P's ratings express our opinion.
Our ratings are opinions.
Pourquoi les risques ont-ils été sous-évalués à ce point par les agences de notation? Est-ce que c'est parce que, comme le disent certains économistes, parce que la conception du hasard de ces agences avait été faussée par les mathématiques?
Pourquoi le régulateur a accepté qu'une agence de notation, qui n'avait aucune compétence pour évaluer des produits financiers, donne une note à des produits financiers? Le rôle des agences de notation, c'était de noter, qui avait été créé par les marchés eux-mêmes, c'était un besoin, c'était de noter les entreprises. Bon, tout d'un coup, le régulateur accepte, ou l'autorité de marché accepte qu'elle note des produits dérivés. Déjà, ces produits dérivés, qui étaient des produits dérivés de crédit au point de départ, ils avaient comme caractéristique que, contrairement aux produits dérivés classiques, dont le sous-jacent est fait en dehors de la salle de marché, ces produits, leur sous-jacent était traité dans la salle de marché. Enfin, si vous voulez, il y avait les acteurs, c'était les mêmes acteurs qui faisaient le prix du produit et la gestion des risques. Bon. Du sous-jacent et la gestion des risques. Donc ça, c'était déjà...
Un problème.
Un problème. Par ailleurs, c'était sur le risque de défaut qui n'a rien à voir en termes de fluctuation avec ce que c'est qu'un cours de change ou des choses comme ça. Donc à la base, moi j'ai refusé de faire des cours sur le crédit pendant des années.
Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils parlent d'opinion? Ils ne disent pas que leurs notes se basent sur des modèles. Ils disent
tous les produits dérivés ne sont risqués par nature. Hein, ils prennent position sur le futur, etc. Donc, on ne peut pas mettre un triple A, même aux produits les plus simples que vous avez bien gérés. Mmh. C'est comme si vous... Mais pourquoi c'était dangereux, le triple A? Parce que, c'est ce qu'ils disent un peu, mais beaucoup plus que ça, c'est que, en fait, les trésoreries des banques, hein, celles qui gèrent l'argent au quotidien, on va dire, de la banque d'investissement, en fait, elles n'avaient pas le droit de placer l'argent. Sauf pour 6 mois ou 3 mois dans des titres très sécures qui restent pas à la, enfin, on va dire dans le trésor ou dans le coffre-fort, quoi. Bon, mais donc les titres qu'ils avaient le droit de traiter, c'était les titres triple A. Bon. Et quand les agences de notation mettent du triple A à des CDO, qui sont des options sur des familles de titres de qualité extrêmement variable, elles introduisent un risque majeur dans la trésorerie des banques. Et nous, on avait été, avec un ami, on avait été évalué, avoir une mission d'expertise sur la trésorerie. On leur avait dit, mais vous avez des CDO, et c'est très risqué. Et là, ils nous avaient dit, ben non, c'est triple A. Donc, en fait, l'impact, c'est quand même aussi, je ne dédouane pas les maths, c'est pas la question, mais le marché, c'est vraiment un tout. Et quand il y a un créneau, on peut s'engouffrer. Je crois que les Mathieu sont un peu naïfs derrière. Hein. Bon, mais ils ont une responsabilité, mais pas celle des agences de notation sur les CDO. Ça, alors là...
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Nicole Elcarou? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, mieux classer les risques, le risque suprême étant le signe noir, ce choc absolument imprévisible?
Oui, enfin, ça, bon. Je connais bien Nassim, mais bon, on peut faire aussi beaucoup de... Oui, des chocs imprévisibles, il y en a. De toute façon, il y en a nécessairement, il y en a tout le temps, il y en a de plus en plus.
Et donc, il faut classifier ces risques, selon vous?
Ben, il faut savoir qu'ils existent. Donc, en fait, on a le Covid. D'accord. Moi, je travaillais pas mal avec l'assurance. Je me suis toujours demandé pourquoi les réassureurs étaient aussi préoccupés des épidémies. Parce que j'avais bien lu que dans le temps, ça décimait des régions. Mais voilà. Bon, on voit arriver. C'est des événements rares, bon, mais qui ont des conséquences majeures. Bon, ça, on connaît. D'ailleurs, moi, je suis très contre les indices ou les choses parce que la finance se construit. Non, excusez-moi. La difficulté dans le monde réel, c'est qu'il faut un compromis entre les choses exceptionnelles qu'on voit et le standard. Donc, tout le monde a l'habitude du standard. On fait des indices, on fait le prix de la vie, on fait l'indice de je sais pas quoi, on fait le SP500, l'indice des meilleures valeurs américaines, etc. On fait des moyennes. Les moyennes, c'est fondamental, ça donne des repères. Hein. Vous savez que la ligne, elle est comme ça. Mais on fait les problèmes de risque, c'est tout ce qui se passe très loin de la moyenne. Et donc, si votre culture, c'est les cultures économétriques de la moyenne et que la mesure de la dispersion, c'est la variance, enfin un petit peu combien on s'éloigne de la moyenne, si on ne regarde que ça, eh ben, on ne peut pas gérer, on ne peut pas vivre dans le monde qu'on a actuellement. Donc, il faut faire ça, mais il faut des lanceurs d'alerte. Il faut que parmi les gens très compétents qui sont dans la banque, quelle que soit l'ampleur du poste, c'est pas le chose plus... Que quand quelque chose apparaît comme anormal, se répète une fois ou deux, on dise « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Juste « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce qu'on ne doit pas ? Mais c'est la vigilance accrue. Mmh. Parce qu'on n'a pas de vérité absolue. Ça n'existe pas. Et le compromis... Comme tous les êtres humains, c'est faire une sorte de moyenne entre risque et ce qu'on peut faire. Il y a un compromis à revisiter en permanence.
Il y a eu une prise de conscience, selon vous, de cette nécessité justement de repenser certains modèles mathématiques qui prévalaient jusqu'alors au long de la crise.
Non, mais les maths, elles jouent très peu. Hein. Je suis quand même, en fait, franchement honnête. Ça a permis de réfléchir, ça a permis de se dire oui, on peut imaginer qu'on peut répliquer. Ce sera pas parfait, mais c'est une voie, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Bon, après, il faut pas croire que c'est la vérité, ni les matheux, ni les autres. Mais il faut acquérir la culture de la complexité du monde. Et là, c'est un monde qu'on réajuste en permanence. Donc, il faut le réajuster aussi. Mais c'est la vigilance. Moi, ce que je trouvais, par exemple, nous, les matheux extérieurs, j'aurais trouvé qu'on aurait pu passer une fois par an au conseil d'administration pour dire tout ce qui nous avait surpris dans ce qu'on avait vu.
Mmh. Bon, ça on veut a pas dire assez écouter les mathématiques.
Non, mais pas du tout. Mais c'est qu'on avait un autre regard. Nous, il nous manquait 90 ou 80% de l'information pour bien comprendre l'ensemble de la structure. Mais c'est très important d'avoir des regards différents et d'avoir des gens qui vous posent des questions, c'est tout. C'est pas des jugements, c'est des questions.
Et justement, un autre regard, peut-être que effectivement les mathématiques ne suffisent pas et qu'il faudrait développer davantage la finance comportementale qui, elle aussi, offre une autre vision.
Alors, c'est un autre monde.
C'est un autre monde, mais
c'est une autre activité.
Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait complémentaire et qu'il faut peut-être plusieurs
disciplines?
Pour le moment,
dans les marchés de dérivés que je connais, ceux qui marquent la tendance, c'est quand même de faire de l'argent à toute vitesse et à tout prix, et que ça, c'est quand même l'objectif numéro un, sanctionner tous les ans.
Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de travailler sur les biais, ce qui nous pousse à agir ou non, ce que tente de faire la finance comportementale?
Non, tout à fait. Mais ça dépend un petit peu quel est l'objectif numéro un que vous avez à traiter. Si vous faites de l'investissement, la finance comportementale est très importante. Ça dépend vraiment des problèmes. Mais tout est important. Mais il y a des priorités à donner à certaines choses parce que dans votre activité, c'est ça d'abord qui va être l'enjeu d'une certaine manière.
Une dernière question sur un sujet qui je crois, vous tient à cœur. Est-ce que l'avenir des mathématiques financières, Nicolas Garoui, ne passerait pas aussi par une féminisation de la discipline? C'est encore un monde d'hommes et encore plus en ce qui concerne les mathématiques financières. D'ailleurs, les mathématiques d'un côté, la finance de l'autre, mais les deux ensemble, c'est encore pire, Nicolas Garoui.
Je vais faire une petite boutade parce qu'en France, il y a un truc extraordinaire, c'est que tous les masters de maths financières qui ont été faits dans les universités scientifiques ont été faits par des femmes. Bon. Et pourquoi ça a été fait par des femmes? Parce qu'on s'est fait assassiner par nos collègues mathématiciens qui trouvaient qu'on avait importé le diable littéralement dans ce monde pur et sacré que sont les mathématiques. Et voilà, donc vous voyez, les femmes, elles sont capables de faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Mais
depuis, ce monde a été réinvesti beaucoup par les hommes. Il y a un travail à faire de féminisation aujourd'hui, hein, Nicolas Elkaoui?
Non, alors de manière générale, dans tous les métiers techniques, il y a un travail de féminisation. Donc dans la banque, ce qui était extraordinaire, c'est que quand même, c'est assez rare d'avoir des femmes qui montent ces trucs-là. Donc on était un modèle quand même. Et malgré le modèle, bien qu'on avait un regard assez tolérant pour les femmes qui candidataient, mais on est quand même super sélectif, c'était difficile de les faire rentrer. Mais là, je vais faire mon petit couplet parce que moi, je pense que c'est très difficile de survivre dans un métier où il n'y a pas de femmes. Parce que, vous pouvez, moi, les matchs de foot, j'en ai rien à foutre. Enfin, ça, moi, j'ai des enfants, je sais ce que c'est que les problèmes des enfants. Je vais pas en bassiner les choses, mais d'avoir jamais une oreille qui peut comprendre qu'il y a des moments vraiment difficiles, vous n'êtes pas en compétition équitable d'une certaine manière. Voilà, il faut juste qu'il y ait un minimum de femmes. Donc, je me bagarre pour que dans les métiers inégaux, il y ait au moins 30% de la minorité.
Et comment est-ce qu'on les attire alors justement dans ces métiers qui...
Voilà, je suis là en grande partie pour ça, parce qu'il faut dire qu'on peut être une femme. Moi, j'ai 5 enfants, 15 petits-enfants. Voilà, je suis une femme passionnée toujours, 75 ans, par ce métier. Mais je n'ai pas sacrifié ma vie, si je bossais comme une folle, hein, quand même, il faut dire. Mais bon, enfin voilà, on peut être épanoui et c'est important de le savoir. Mais là, j'ai un petit créneau en plus, c'est que la loi maintenant oblige les entreprises à avoir un minimum de femmes dans les métiers techniques. Et en fait, on n'en trouve aucune. Donc là, ce n'est pas les entreprises qui sont méchantes. Il n'y a pas de femmes. Donc, on est prêt à l'Institut Louis Boisselier, dans lequel on a monté des collaborations entre académiques et professionnels. On est prêt à se battre pour aller même faire du tutorat auprès de filles, etc. Mais moi, j'ai 2 filles, 3 garçons. Et les 2 filles, elles font des sciences, mais elles font de la bio. Hein. Et donc...
Il manque encore des sciences vers la finance.
Voilà. Non, pas la finance.
Et vers les mathématiques.
Maintenant, de toute façon, la finance, c'est devenu plus le problème de l'intelligence artificielle ou du big data. Mais il faut des scientifiques. Vous n'êtes pas obligé de... Il faut comprendre un certain nombre d'éléments du monde scientifique.
Eh bien, un grand merci, Nicolas Elkaoui, de nous avoir aidé justement à comprendre un certain nombre d'éléments du monde scientifique et de nous avoir emmenés dans les méandres des mathématiques financières. Un grand merci à vous.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
De nouvelles dettes allemandes en 2021, c'est le ministre des Finances Olaf Scholz qui l'affirmait hier. Position inimaginable il y a quelques mois et qui marquerait un tournant dans la pensée économique allemande.
Et bien que les autorités allemandes viennent de prendre un large virage budgétaire, c'est indéniable, hein, au plan européen en se ralliant à la dette commune longtemps rejetée et au plan national en pariant sur une relance généreuse et risquée avec pour l'instant donc plus de 218 milliards d'euros empruntés. Décision pas étonnante dans cette période de grand retour à l'État, mais qui tranche avec la discipline budgétaire habituelle. D'ailleurs, pour la mettre en œuvre, Berlin s'oblige à rompre avec sa règle unique au monde de maîtrise des déficits et de la dette, ce qu'on appelle le frein à la dette, inscrit dans la Constitution en 2009 et qui interdit en théorie un déficit public fédéral supérieur à 0,35% du PIB. Alors, sans prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire des mesures d'urgence et temporaires pour une nouvelle politique économique, le pas symbolique est franchi, assez en tout cas pour faire douter certains de la solidité du libéralisme allemand issu de l'après-guerre, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire une certaine conception de la non-intervention de l'État sur la vie économique.
Mais justement, Xavier, les pressions pour un engagement accru de l'État se multiplient.
Et oui, certaines figures politiques poussent à l'interventionnisme. Les deux têtes des sociodémocrates adversaires de Merkel ont ainsi verdi la relance et promu certaines des mesures les plus sociales, comme la baisse de la TVA, la hausse de l'allocation parentale ou l'aide au logement social pour les communes. Le ralentissement économique d'avant la crise a aussi fait diverger les économistes. En 2008, on se rappelle que 154 d'entre eux, dont les plus influents Jürgen Stark et Hans Werner Sinn, s'opposaient ouvertement à l'union des dettes évoquée par Emmanuel Macron. Et on se rappelle qu'au même moment, 14 économistes franco-allemands proposaient au contraire de s'éloigner des règles budgétaires européennes. Pour le Financial Times, même, l'affaire était entendue dès l'année dernière à la suite d'un sondage d'opinion qui se montrait majoritairement en faveur des dépenses publiques. L'Allemagne tombe en panne d'amour pour l'orthodoxie économique, titrait le journal, affirmant même que le consensus orthodoxe au sein du Conseil d'experts gouvernemental s'écroule.
Et ce moment coïncide aussi avec un changement de génération parmi les économistes allemands ?
Oui, un paysage relativement sclérosé, d'après une étude de l'université de Linz, partagé entre économistes médiatiques et universitaires de l'ombre, dominé par des hommes âgés, majoritairement conservateurs, alors que dans les classements des économistes les plus influents des Frankfurter Allgemeine Zeitung et du Süddeutsche Zeitung, les figures montantes, ce sont aussi souvent des quarantenaires. Parmi elles, le président de l'Institut pour l'économie mondiale, Gabriel Felbermayr, qui annonçait même dans Le Monde l'avènement d'une nouvelle génération comme lui, non plus formée exclusivement en Allemagne, et, dit-il, avec une analyse plus moderne et plus internationale. D'ailleurs, 7 d'entre eux, dont 2 des sages du membre du Conseil d'experts, ont d'ailleurs plaidé pour des Corona Bonds le 23 mars. Et puis, vous en parliez, la féminisation de la discipline pourrait aussi l'infléchir. Dans le premier classement des économistes femmes les plus influentes du Frankfurter Allgemeine Zeitung l'année dernière, la palme revient à Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, et donc son avocate auprès des Allemands. Quant à Frédéric Welter, qui est la présidente de l'Institut de recherche sur la classe moyenne, Claudia Kempft du DIV de Berlin, spécialisée dans les énergies et l'environnement, ou bien Maya Göppel, qui conseille le gouvernement sur les politiques de développement durable, ces femmes promeuvent des domaines délaissés par leurs homologues masculins, remarque encore le journal.
Pour autant difficile d'y voir un changement radical ou un reniement de l'orthodoxie allemande, c'est un fantasme.
Oui, c'est vrai qu'avec la crise financière, l'intransigeance et le modèle allemand ont été vivement critiqués, y compris par les économistes nationaux. Dès 2014-2015, les ouvrages démystificateurs fleurissent. Ce sont La bulle allemande ou L'illusion allemande du président du DIW Marcel Fratscher, une sorte de préfiguration du capital au XXIe siècle dans sa volonté de souligner les inégalités des 20 dernières années de croissance. Pourtant, la glasnost de l'ordolibéralisme allemand n'est pas encore arrivée. Loin d'une trahison, certains voient au contraire aujourd'hui, dans le relâchement du frein à la dette, la confirmation de son utilité à long terme. Olaf Scholz, bien sûr, qui répond sans cesse qu'il y a de la marge. Des chercheurs aussi, Niklas Potrafke, ainsi directeur de recherche à l'Institut IFO, rappelé dans Le Monde. On voit maintenant combien il était important de refuser tous les appels à augmenter les dettes qui ont été formulés ces dernières années. En 2016, un économiste de Harvard enseignant à la Humboldt, Michael Burda, tentait de venir à bout de certains clichés. Ainsi, en réponse à la publication de The Economist d'un article à charge qui s'appelait « La loi et l'ordre », il dénonçait en particulier 3 mythes, celui d'anti-keynésien dogmatique, celui d'héritier passif d'un ordolibéralisme d'un autre âge, celui d'obsédé par l'aléa moral et l'austérité. Ainsi, s'il y a une particularité allemande, poursuit-il, c'est un mélange d'intérêt national et de saine méfiance éclairé par l'expérience expérience, rien de si spécifique. Conclusion, non content de ne pas prendre les vessies pour des lanternes, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours de Berlin avant de l'avoir tué.
Merci beaucoup Xavier Martinet, et à demain. Et demain, justement, on se posera cette question. A-t-on besoin plus que jamais des astrologues? On posera la question au sociologue Arnaud Esquiré. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.